À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Traverser nos fragilités », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Dans une nouvelle série d'émissions, je vais aborder longuement la question de la fragilité en lien avec mon livre « Traverser nos fragilités » paru aux éditions de l'Atelier. Parler de la fragilité, c'est toucher quelque chose de très sensible. Accueillir la fragilité, la sienne, nous en avons chacun, celle des autres. De ceux qui nous la montrent, nous la confient, mais aussi accueillir la fragilité de ceux qui la cachent, ou qui en ont honte, mais que nous devinons parce que nous sommes proches d'eux. Accueillir notre propre fragilité, la reconnaître, ne pas la nier, la fuir, ne pas vouloir donner l'impression que nous sommes plus forts que les autres. Essayer de l'apprivoiser sans la juger, sans la craindre, de l'identifier, peut-être même de la nommer. Traverser la fragilité. Pourquoi traverser ? Dans le sens de ne pas s'y enfermer. C'est plutôt l'idée de parcourir un exode. Parce qu'on sait bien qu'on ne s'en libérera jamais totalement. Il nous faut bien, comme on dit parfois, vivre avec. Non pas comme une tare, mais comme une limite et une chance. Parce que nous verrons que, à la fois la fragilité peut être vécue comme une souffrance, mais aussi comme une chance extraordinaire de rencontre. Car notre fragilité, c'est une brèche qui peut nous ouvrir à l'autre, dans la mesure où elle ne nous enferme pas sur nous-mêmes pour nous protéger. Et elle nous révèle alors que, par notre humanité, nous ne pouvons pas en sortir seuls. Nous le verrons plus loin. C'est une invitation aussi à aller à la rencontre de la fragilité de nos semblables. Reconnaître sa fragilité, c'est se découvrir des antennes. Des antennes que nous sortons pour anticiper toute menace, pour nous protéger, mais aussi des antennes qui nous permettent de pressentir sur le visage de l'autre une attente silencieuse, une souffrance muette. Reconnaître cette fragilité que nous avons en nous, c'est la condition pour accueillir celle de l'autre. Celui, celle qui se croirait sans fragilité, peut-il écouter avec son cœur, accueillir vraiment l'autre dans ses profondeurs ? Si je ne suis pas en contact avec mes propres profondeurs, si je ne suis pas conscient que je suis un mélange de lumière et d'obscurité, de force et de faiblesse, comment accueillir l'autre tel qu'il se présente, tel qu'il est ? Dans une société insécurisée, fascinée par la toute-puissance, comment reconnaître ma part de fragilité comme une grâce pour l'accueil et la rencontre ? Et pourtant, il ne faut pas idéaliser la fragilité parce que, à un certain niveau d'intensité, elle peut être vécue comme une prison, comme un handicap, comme un véritable obstacle à la rencontre et à la communication. À ce moment-là, ce n'est plus une chance, c'est un emprisonnement. Et il nous faut dépasser cet enfermement mortifère, et dans ce cas-là, nous avons besoin peut-être d'une guérison, ou en tout cas d'un accompagnement, pour grandir en liberté intérieure. Quand on parle de fragilité, on parle de quelque chose qui n'est pas solide, qui ne résiste pas, qui a une faille, qui se casse facilement, qui menace notre intégrité, notre équilibre. Nous évoquons ce qui touche à notre autonomie, notre capacité d'entreprendre. C'est vrai que la fragilité concerne toutes ces limitations, celles de notre corps, de notre psychisme, de nos capacités de relation, de notre vie spirituelle aussi, de notre capacité d'être au monde. Et nous pouvons vivre cela comme un poids lourd à porter qui nous empêche de goûter la vie, de la vivre pleinement. Mais nous verrons qu'il ne faut pas se libérer à tout prix de toute fragilité si nous voulons rester des êtres humains. Il est important de garder une distance juste dans nos relations. Quand nous sommes face à quelqu'un qui est pris par sa fragilité, qui vient nous présenter sa fragilité et que nous avons envie de l'accompagner, de l'aider, de l'accueillir. Quand je parle de juste distance, je veux dire cette attitude où d'un côté je me laisse toucher, mais d'un autre je ne me laisse pas envahir. Je m'expose à ce que l'autre a de douloureux, mais je ne m'identifie pas à ce qui l'empêche de vivre et de goûter la vie. C'est vrai aussi que la fragilité de l'autre est un miroir de la nôtre. C'est pourquoi d'ailleurs nous nous protégeons souvent des personnes en grande fragilité, nous fuyons les gens qui sont hospitalisés, nous essayons de nous écarter quand nous voyons une personne avec un handicap visible. C'est vrai aussi que l'expérience de la souffrance d'un proche peut être la révélation inéluctable du mal et du malheur à l'œuvre dans le monde, et donc dans ma propre vie. Et pour certains, cette révélation est insupportable. Pourtant, l'expérience de notre propre fragilité, si elle est vécue avec justesse, et parfois il est bon de se faire accompagner, peut devenir comme le lieu d'un dévoilement de notre vérité. Quelle vérité ? Eh bien, nous sommes des êtres mortels et fragiles. Nous sommes exposés au vieillissement et à la souffrance. Nous avons des limites dont nous avons d'ailleurs parfois hérité. Aussi, quand nous accompagnons quelqu'un de fragile, et ça c'est une merveille parfois d'en prendre conscience, nous découvrons qu'il y a en nous des trésors de compassion, de tendresse, d'écoute, de dépassement que nous n'avions pas soupçonné. Je me souviens de cette famille nombreuse où l'un des enfants, à la suite d'une maladie, s'est retrouvé avec un handicap. Il y a eu comme une mobilisation de toute la famille pour aider cet enfant à vivre son handicap, ce qui a libéré des trésors de tendresse, aussi bien de la part des frères et sœurs que des parents. Bien sûr, le risque, et il faut faire attention, c'est de se focaliser tellement sur la personne qui souffre qu'on oublie les autres enfants. Chacun a besoin de sa place, toute sa place. Mais tout de même, la rencontre avec une fragilité qui nous sollicite dans nos profondeurs peut être pour nous la révélation de notre tendresse, parfois dissimulée. Cependant, le face-à-face avec la souffrance de l'autre peut être pour moi la révélation douloureuse que je suis un être destiné à mourir un jour. Aussi, c'est la révélation que nous avons été créés pour l'amour et pour la fécondité, au-delà de la fragilité. Je dirais même grâce à notre fragilité. Du coup, ce qui apparaît au premier abord comme une menace pour mon équilibre, mon intégrité, peut devenir le lieu d'une révélation de mon identité profonde. Nous avons été créés pour aimer, et notre fragilité est bien souvent ce qui nous rend capables d'aimer. Car aimer, c'est être habité, c'est se laisser visiter, c'est ouvrir un espace pour l'autre, ce qui n'est possible qu'il y a en moi une béance, une incomplétude, une faille aussi, où je peux me laisser rejoindre. Parler de fragilité, c'est aussi parler de la façon d'y répondre. Comment est-ce qu'un chrétien peut rencontrer la fragilité ? Comment est-il possible pour un chrétien de porter de façon féconde l'épreuve de la fragilité en lui-même ou en l'autre ? Comment peut-il y arriver s'il n'a pas, dans nombre de cas, restauré une relation de confiance avec son Dieu ? une relation filiale, d'enfant à père qui a un cœur de mère. Et nous le verrons tout au long de ces émissions, c'est sans doute la première guérison dont nous avons souvent besoin, celle de nos représentations de Dieu. Tant que je continue à avoir peur de Dieu, tant que je reste enfermé dans cette peur d'être jugé, d'être rejeté, quand je vis une culpabilité morbide par rapport aux faiblesses que je vis et qui n'ont pas toujours dépendu de mon propre choix, de ma propre volonté, qui ne sont donc pas des péchés, je pense à ceux qui sont marqués par des mauvaises habitudes qui les empêchent de vivre et qui se culpabilisent par rapport à cela, que ce soit dans le domaine de la sexualité, de l'ivresse ou d'autres choses. Tant que nous pensons devoir mériter la grâce, l'amour, nous ne pouvons pas nous considérer comme des enfants bien-aimés. Nous ne pouvons pas nous vivre comme des enfants bien-aimés. Nous n'arrivons pas à nous recevoir de Dieu comme des enfants bien-aimés. Or, la grâce est toujours donnée. Elle ne se mérite pas. Elle est donnée comme le soleil se lève tous les matins. Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et nous le verrons, il ne nous enferme jamais dans notre mal ou dans notre faute. Ce qui est difficile, c'est que nous vivons dans une société où la faiblesse est vécue comme une faute. On nous reproche nos limites. Et les soignants, les accompagnateurs des malades ou des personnes fragiles connaissent bien cette culpabilité qui envahit une personne quand elle est obligée de se faire aider. On nous a tellement enseigné qu'il fallait être autonome, ne pas peser sur les autres. C'est pourquoi ce regard chrétien positif sur le plus fragile reste une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Dans les évangiles, le plus petit, le plus pauvre sont les privilégiés. Et il n'y a rien à mériter. Je dirais même que le christianisme juge une civilisation sur la façon dont elle traite les plus faibles. Alors nous nous demandons parfois, est-il possible de choisir ou de rechoisir la vie du fond de l'obscurité et de la pauvreté que nous vivons, si nous n'arrivons pas à nous recevoir de notre Dieu comme un enfant bien-aimé? Est-ce que cela n'est pas lié au regard négatif que nous posons sur nous-mêmes, qui fait que nous n'arrivons pas à nous laisser aimer? De cela aussi je reparlerai plusieurs fois. Parce que, à proprement parler, personne ne peut faire le bonheur de l'autre. Pas plus notre Dieu dans sa toute-puissance, et nous verrons comment comprendre ce mot, que chacun d'entre nous. Car ce qui ne dépend pas de ceux qui nous aiment, c'est la façon dont nous accueillons leur amour, la façon dont nous nous laissons aimer, la façon dont nous nous réjouissons du cadeau qui nous est fait. Nous le savons. Nous pouvons donner beaucoup d'amour à quelqu'un qui ne peut ou ne veut accueillir cet amour. Et c'est bien souvent une profonde souffrance dans le couple ou avec des enfants. Et comme il est difficile de croire, de reconnaître, d'accueillir l'amour qui nous est donné par notre Dieu, quand on se sent abandonné de lui, de tous. Il faut reconnaître que cela peut provenir de blessures anciennes qui nous empêchent pour le moment de nous laisser aimer. Mais il dépend aussi de nous de cesser de nous replier sur nous-mêmes, de cesser d'exiger des autres de faire notre bonheur, en multipliant parfois les conditions pour consentir à nous laisser aimer. Simone Paco a raison de nous poser cette question : qu'as-tu fait de ce qu'on t'a fait lorsqu'on a vécu des épreuves dans notre vie ? Car je peux m'installer dans une situation de victime définitive. C'est alors qu'il est bon d'accueillir la parole de Jésus à la Samaritaine. « Si tu savais le don de Dieu, et quel est celui à qui tu demandes à boire ?» dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 10. Personnellement, j'ai vécu dans ma propre famille cette difficulté à accepter que je ne peux pas faire le bonheur de ceux que j'aime. Que si ils n'arrivent pas à être heureux de tout l'amour que je leur donne, je n'ai pas à m'en culpabiliser. Qu'en définitive, je suis responsable de la qualité de l'amour que je donne. Je ne suis pas responsable de la façon dont l'autre le recevra. Et donc, Dans cette série d'émissions, je voudrais m'adresser à la fois à ceux qui souffrent et à ceux qui accompagnent les personnes qui souffrent. Ceux qui, prenant conscience de leur fragilité, s'efforcent parfois difficilement de les apprivoiser, de les traverser. Mais aussi ceux qui se sentent écrasés, ligotés par leur fragilité. Ces réflexions concernent également les personnes qui sont exposées à la fragilité des autres et qui ne l'est pas à un moment ou un autre. Bien sûr, il y a tous les soignants de toutes les catégories. Il y a les aumôniers d'hôpitaux, les accompagnateurs de malades ou de couples en crise, de personnes en difficulté professionnelle. Mais il y a aussi tous ces parents d'enfants avec un handicap ou tous ces enfants chargés de parents âgés qu'ils voient diminuer sur leurs yeux, qu'ils n'arrivent plus à reconnaître tellement ils sont abîmés par la souffrance et par le vieillissement. Puis c'est vrai que ces réflexions viennent de ma propre expérience, de ma fragilité et de celle des hommes et de femmes qui se sont confiés à moi dans mon ministère de prêtre, d'accompagnateur, dans mon travail de formateur. Elle vise à rendre cette responsabilité que nous avons dans l'accompagnement des autres de la vie de façon plus féconde, plus paisible, plus autonome, sans éluder les graves questions qui montent en nous quand nous sommes exposés à la souffrance et à la fragilité des autres. Je n'ai pas du tout la prétention d'apporter des solutions définitives, car le mystère de la vocation humaine et du projet de Dieu sur l'humanité est immense. Mais je voudrais faire un certain travail de déminage dans une mémoire collective encore encombrée de ce que je considère comme des caricatures de Dieu et des caricatures du christianisme. Ce qui explique que certaines personnes crient « Qu'ai-je fait à Dieu ?» comme si la souffrance était une punition. Et puis ces discours convenus, dangereux, où on entend des gens dire à telle ou telle personne gravement atteinte, par exemple d'un cancer, « Il faut accepter la volonté de Dieu, Dieu est tout-puissant, il vous donnera la solution. » Ou bien, pire encore, « Le Seigneur nous envoie des croix pour nous faire avancer. » Ou bien d'autres qui diront « Si tu avais la foi, tu guérirais. » Ce n'est pas si simple tout cela. Sans oublier les considérations que l'on entend parfois sur la nécessité de la souffrance et de la croix pour être sauvé, et qu'on serait d'autant plus heureux de l'autre côté qu'on souffrirait plus ici. Ceci est grave parce que cela a écarté beaucoup de gens de la consolation qu'apporte la foi chrétienne. Nous y reviendrons parce que l'enjeu est très important. J'ai fait allusion au fait que ce que je vais dire maintenant à propos de la fragilité, de la vulnérabilité, vient aussi de ma propre expérience. C'est vrai que l'accueil de la fragilité est au cœur de mon itinéraire spirituel et de mon ministère de prêtre et de missionnaire. Cela remonte loin, puisque quand je suis arrivé à la fin de mes études secondaires, j'hésitais entre devenir prêtre ou médecin, au service de l'Afrique, car j'avais ce désir, et je l'ai toujours, de vivre au service des Africains. Et puis maintenant, petit à petit, dans mon travail déjà, quand j'étais au Zaïre par exemple, ou en Tanzanie, petit à petit ces questions de santé m'ont rejoint. Parce que j'ai été confronté à la souffrance des gens, à leur fragilité, à l'isolement d'un certain nombre de personnes, qui, malgré la grande solidarité qu'on rencontre en Afrique, peuvent être complètement marginalisés à cause d'accusations de sorcellerie, ou bien, plus récemment, à cause de la séropositivité. C'est d'ailleurs étonnant de voir que dans certains pays, les séropositifs sont complètement marginalisés et mis à l'écart, tandis que dans d'autres, ils vont témoigner dans les écoles pour sensibiliser les jeunes aux risques. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé au lien entre la spiritualité et la santé, l'évangélisation et la guérison. Là, l'Afrique m'a beaucoup bousculé, parce que j'ai compris que, pour les Africains, une religion qui ne rejoindrait pas les questions de santé ne les concernerait pas. Pour eux, salut et guérison sont inséparables. J'ai donc dû creuser cela, d'un point de vue théologique, du point de vue pastoral, du point de vue aussi de l'accompagnement spirituel. Et puis, petit à petit, en contact avec le renouveau charismatique que mon évêque m'avait demandé d'accompagner, je me suis engagé dans la formation des noyaux, des groupes de prière, puis dans la formation et l'accompagnement des aumôniers dans le monde de la santé. Et enfin, depuis 1992 en France, je travaille de plus en plus avec des professionnels de santé à différents niveaux. Que ce soit la formation des médecins, des psychologues, dans certaines spécialisations, pour des praticiens qui ont déjà plusieurs années d'expérience, que ce soit la formation initiale des infirmiers, des infirmières, des assistantes sociales de la Croix-Rouge, etc. Et j'ai pu ainsi approcher une grande diversité de milieux, en parallèle avec mon travail d'accompagnement spirituel. J'ai aussi développé des unités de recherche à la faculté de théologie sur ces questions. Je le disais, quand on aborde la fragilité, il faut s'y aventurer avec ce que Maurice Bellet appelle la divine douceur. Nous ne pouvons l'approcher que sur la pointe des pieds. D'abord parce que la fragilité que nous rencontrons chez les autres, elle est en nous. C'est la première que nous avons expérimentée et il nous faut l'apprivoiser pour nous-mêmes. C'est d'ailleurs souvent la condition pour pouvoir rencontrer les autres. Ensuite, je l'ai dit aussi, l'expérience de la fragilité peut être un moment de grâce, mais peut être aussi la confrontation insupportable à la souffrance et au mal. C'est pourquoi d'ailleurs il est dangereux de dire « le Seigneur a envoyé », parce qu'un père ne met pas son enfant dans une situation où il peut se détruire. Personne ne sait à l'avance comment il va vivre la souffrance, la maladie, le vieillissement ou la mort. Pour certains, effectivement, la rencontre de la fragilité est l'occasion d'une maturation dans la foi et dans l'amour. Pour d'autres, c'est la fin de toute relation à Dieu et même aux autres. Donc, rencontrer la fragilité des autres nous renvoie à notre fragilité et au mystère de l'être humain. Quelle audace que d'aller vers les autres, fragiles, alors que nous-mêmes nous sommes fragiles, pour leur parler de quelqu'un qui a transformé nos fragilités en lumière, en espérance, et qui semble pourtant parfois si silencieux, absent, discret, pudique, diront certains, alors qu'on le dit tout puissant. J'aime distinguer les mots « vulnérabilité » et « fragilité », particulièrement dans une relation d'aide ou de soin. Je dis qu'il y a de l'audace à se montrer vulnérable. Dans le mot « vulnérable », il y a les racines « s'exposer à la possibilité d'être blessé ». Donc, me montrer vulnérable dans une relation d'aide ou de soin, c'est m'exposer. C'est prendre le risque d'être atteint, blessé, déstabilisé même par la souffrance de l'autre, par sa fragilité, qui renvoie à la mienne. Je sais que quand j'ose me montrer vulnérable, les autres osent exposer leur fragilité, sollicitent la compassion. Et ils le sentent bien quand la personne à laquelle ils s'adressent a une capacité de vulnérabilité. Certains profiteront de la vulnérabilité qui s'offre pour faire mal, pour régler des comptes, peut-être à cause des blessures qu'elles ont reçues. Parfois, certains, de façon plus ou moins perverse ou désespérée, voudront vérifier jusqu'où notre vulnérabilité consent à n'être que compassion, écoute, accueil. Et je crois que pour oser être vulnérable, se montrer vulnérable, il faut d'abord avoir été soi-même blessé sans avoir été détruit, sans avoir été atteint au défaut de la cuirasse, avoir été déchiré, mais sans que la béance ne se soit définitivement refermée, durcie. Et c'est dans ce sens-là que je dis, pour pouvoir être vulnérable, se montrer vulnérable, il faut être fort. Fort dans le sens de construit intérieurement. Et cette construction intérieure ne peut se faire qu'à travers un apprivoisement de mes fragilités, à travers des chemins de pardon, de consentement à me laisser aimer avec cela. Alors, à ce moment-là, ne comptant plus sur moi-même, conscient de mon incapacité d'aimer quand je suis blessé, confiant de mes zones de fragilité, de mes résistances intérieures par rapport au pardon, par exemple, conscient que je suis tenté de me replier sur mes blessures et mes limites. Heureux suis-je si, acceptant de me laisser aimer comme cela, je me laisse guérir grâce à la proximité des autres, d'un autre. Et réconcilié jusqu'à un certain point avec mes fragilités, je peux me montrer vulnérable. Alors, du cœur de cette fragilité reconnue et acceptée en moi, du cœur même de mes cicatrices, jaillit une force, une capacité d'accueillir la fragilité, la misère de l'autre, sans me laisser envahir. Parce que la vraie compassion, ce n'est pas la fusion. C'est être capable de me laisser toucher tout en gardant la distance qui me permet de consoler, de rejoindre, d'accueillir, d'accompagner. Ce n'est pas facile de ne pas me laisser envahir. Donc, aimer jusqu'à oser être vulnérable, c'est aimer comme le Christ nous a aimés. En donnant notre vie pour l'autre, une vie qui est donnée, mais pas une vie qui est envahie ou contaminée par la souffrance de l'autre. Une vie ouverte. Pour moi, cette expérience, j'ai aussi eu l'occasion de la vivre dans des communautés chrétiennes, et puis depuis quelques années, de travailler avec le Conseil œcuménique des Églises dans un groupe de recherche qui précisément se penche sur le rapport entre évangélisation et guérison. Et à partir de ce travail que nous avons fait ensemble, je dirais que je suis d'accord lorsque l'on dit que il n'est pas facile aujourd'hui d'annoncer un Christ crucifié dans un monde brisé. Et dans cette réflexion sur le rapport entre guérison et évangélisation, nous mettons l'accent sur deux dimensions. D'abord, l'évangélisation ne peut être menée que du cœur de communautés, qui sont des communautés de guérison et de réconciliation. Ensuite, parler de guérison et de réconciliation aujourd'hui concerne la personne dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire pas simplement tel individu souffrant. Cela touche les sociétés, les cultures, les civilisations, les injustices dans le monde, tout ce qui empêche les êtres humains de réaliser leur vocation. Donc il y a ici un chemin de libération qui se propose. C'est pourquoi on parlera d'une approche holistique, globale, le mot voulant dire intégrale, de la guérison et du salut. Une évangélisation faite par une communauté, qui est une communauté d'accueil, de guérison, de libération, qui concerne non seulement des personnes, mais des sociétés, des structures de péché, comme disait Jean-Paul II, des dysfonctionnements dans la société. C'est ainsi que nous pouvons concevoir aujourd'hui une nouvelle façon d'évangéliser et d'aimer.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.